Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nicolas, tu es notre data scientist préféré, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, on t'a demandé si tu pouvais enquêter sur les sponsors YouTube. Vaste et passionnant sujet. Quel YouTuber en fait le plus, qui bosse avec qui, des questions comme ça. On va voir ce qu'on a réussi à trouver. Je sais qu'il y a des trucs intéressants. Tu m'as un peu teasé, mais voilà. Non, moi, j'ai pas encore vu. Mais d'abord, je pense qu'une info importante quand même à dire, c'est que a priori, on est les tout premiers à bosser sur cette question. C'est-à-dire que d'un point de vue technique, ça va poser certains enjeux. Moi, je suis curieux en tant que non-data scientist. Tu fais quoi quand justement tu es dans une situation comme ça où tu n'as pas 3 datasets tout prêts à l'emploi? Alors, tu commences où en fait?
C'est ça. Alors, ça va être une histoire de drame, de larmes, de temps passé derrière des écrans à la couleur bleue. ça va être tout un chemin initiatique, j'espère, pour vous. En fait, la question, comme tu dis, c'est que il y a des personnes dont c'est le métier d'analyser justement le marketing et la publicité sur les plateformes, mais ils ne constituent pas un dataset en une semaine pour l'analyser la semaine d'après et préparer une chronique 3 jours après. En fait, souvent, c'était plutôt sur... En fait, bon, je reviendrai plus tard dans la technique, mais quand tu constitues un dataset, il y a 2 manières de le faire. Soit tu retournes dans le passé et tu te le constitues en reprenant ce qui a déjà été fait, ou soit tu te mets en gros sur le tuyau et tu prends au passage.
Et t'attends.
Et c'est plus facile de te mancher sur le tuyau et de prendre ce qui vient au passage parce que, en gros, tu prends le flux tel qu'il vient, tu construis ta base de données, ouais. Tout ça. Là, on a dû, nous, prendre la petite machine à remonter dans le temps et venir même jusqu'aux prémices de YouTube.
Je résume notre problème. On est curieux d'essayer de comprendre des choses sur la gestion des sponsors sur YouTube. J'imagine que d'un point de vue technique, déjà, une première question toute bête, c'est comment techniquement tu sais quelle est une vidéo sponsorisée ou quelle est une vidéo non sponsorisée?
Alors ça, c'est justement tout le problème parce que malheureusement, il n'y a pas cette petite colonne dans l'API de YouTube qui m'aurait fait gagner énormément de temps où j'aurais pu dire « dis-moi quelle vidéo est sponsorisée et donne-moi la marque de la sponsor ». Si j'avais eu ça, on aurait été tranquille et ça aurait été fait très vite. En fait, comment ça s'est passé, c'est que au début, on s'est dit, il faut que, en fait, on voudrait avoir un espèce de panorama de comment se passe la publicité sur YouTube, donc les sponsors, les affiliations, etc. Pas les pubs qui coupent la vidéo. C'était pas ça le sujet. C'était plutôt quand c'est choisi, on va dire, par partenariat, avec les créateurs. Et donc, en fait, on est parti sur cette question sans avoir d'idée de ce qu'on cherchait au final. Ouais. Ce qui est en fait une démarche qui est plutôt intéressante, qui est souvent pas celle qui est la plus opérationnelle, parce que souvent on se dit, on veut essayer de montrer ça, si c'est vrai ou pas, par exemple, tu vois. Ou exemple, la chronique sur la Pixel War, c'était plutôt, on veut voir s'il y a eu de la triche. Et donc la réponse là, c'est oui ou non. Et tu vois, t'as ton hypothèse, t'y vas. Là, c'était plutôt, on va...
Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les sponsors YouTube?
Qu'est-ce qu'on peut trouver? Et ça se trouve, le résultat, tu vois, il pouvait nous apparaître au final. Donc comment je m'y suis pris?
Mais est-ce que t'avais des hypothèses? Avant de commencer, tu avais des hypothèses un peu sur ce que tu devais trouver?
Alors moi, c'est assez particulier parce que du coup, c'est plus ou moins mon métier de faire ça. Ouais. Donc, j'ai déjà beaucoup d'hypothèses qui sont de l'ordre de je sais à peu près qui travaille. J'ai un peu un panel dans ma tête de je sais à peu près qui marche, fonctionne comment, fait des pubs avec qui, comment ça fonctionne. Mais j'avais pas de vraies hypothèses posées parce qu'on était un peu de l'ordre du sentiment, tu vois. Donc, j'ai vraiment dû prendre notre sujet, essayer de le décortiquer et d'y aller en mode, on va dire...
Au feeling.
Ouais, c'est ça, un peu au feeling, c'est le terme. Donc en fait, la première chose que je me dis, c'est il me faut de la data. Ça, c'est la première chose. Ça peut être souvent la partie la plus compliquée. Parce que des fois, on dit, ouais, tu vas appliquer ton modèle sur ta donnée, tu vas la modéliser.
D'abord, il faut...
Et la donnée, déjà. Et ensuite, on parle, tu vois. Et donc, comment je fais pour récupérer la donnée? Je me dis, bon, comment je définis mon corpus? Comment je définis mon scope? Je vais essayer d'avoir les top YouTube. On va essayer de se faire un échantillon. On ne va pas prendre toutes les chaînes YouTube françaises, ni du monde. Déjà, on va se prendre un petit top. Et je cherche sur Google, et figurez-vous que c'est une information qu'on ne trouve pas. Il n'y a pas un endroit, par exemple, sur YouTube où tu peux cliquer et dire c'est quoi les plus grandes
chaînes YouTube
avec le plus d'abonnés
françaises ou du monde.
Bah, T'as très peu d'endroits où tu peux avoir cette info.
Sérieux ?
Même dans l'API, tu vois, il y a un moment...
Ouais, j'allais dire, il n'y a pas une API qui te permet de...
Bah, en fait, là, j'ai quasiment tout fait avec l'API de YouTube.
Et donc, tu ne peux pas avoir Tops en France.
Bah, okay. J'ai essayé avec certains trucs, comme lancer une recherche vide dans l'API, et de dire, je lance une recherche avec rien dedans, et tu me mets, par exemple, les chaînes par ordre décroissant de viewers. Enfin, pas de viewers, là, on parle, mais d'abonnés. Ouais. Et bah, c'était
un ordre random,
n'importe quoi.
Okay.
Et c'était plutôt l'algo de recommandation qui interprétait le vide comme il pouvait. Okay.
Et donc, j'ai envie de te dire, alors, étant dans la sphère YouTube et tout, je sais que nous, on a des outils qu'on aime bien utiliser, Analytics et tout, genre Social Blade.
Exactement.
Qui permettent d'avoir justement des stats comme ça sur YouTube.
C'est ça. Donc, du coup, je me suis orienté vers quelque chose de plus tiers, tu vois. Ouais. Et donc, Social Blade, qui justement est une entreprise qui récolte à grande échelle de la donnée YouTube. Et ensuite. Viens te faire des tops, viens te donner plein d'insights. Parce que souvent, ce qui est bien avec Social Blade, c'est qu'il te permet aussi de retourner dans le passé, tu vois, de voir, par exemple, Squeezie, il avait combien d'abonnés en 2018, etc. Donc ça peut être intéressant. Donc ça a été ma première porte d'entrée. Bah, il s'avère qu'ils sont pas cons, Social Blade, parce qu'ils ont une API qui coûte un certain prix.
Ah.
Et si tu passes pas par leur API, tu peux pas avoir trop d'infos.
Okay.
Tu vois. Et au début, je me suis dit, bon,
on va scraper.
J'ai le choix entre payer l'API ou sortir les outils scrapping. Bon.
Donc, pour expliquer, API, c'est la manière propre de faire. Scrapping, c'est récupérer en masse des pages et extraire les infos aux bons endroits.
API, on la met à disposition pour un bot. Et scrapping, c'est tu prends la mise à disposition
pour
les humains, donc les UX, lui, et tu viens récupérer l'info dedans. Donc, c'est pas fait pour. Tu vois, et même souvent, les sites.
C'est un peu pirate.
N'aiment pas du tout qu'ils fassent ça.
Exact.
Et donc, j'ai scrapé Social Blade, ce qui a été étonnamment simple quand tu vois. Enfin, je veux dire, tu mets une API payante. Et au final, tu peux la scraper. Genre, sans déconner, j'ai mis 15 lignes de code et c'était bon. Et donc, du coup, je me suis dit, OK. Maintenant, ils sont quand même un peu malins parce que t'as pas accès à des requêtes très avancées si t'as pas le truc premium.
Okay.
Donc là, tu te dis, bon, ils te laissent scraper. Enfin, il n'y a pas de système qui te bloque ton scrapping de manière hardcore, mais d'un autre côté, t'as pas non plus trop.
Si t'as pas un compte premium,
tu peux pas, par exemple, filtrer par catégorie.
Okay.
Et le problème, c'est que du coup, dans les premières chaînes, j'avais Maître Gims, Vevo et plein de trucs qui étaient pas forcément intéressants pour nous.
Pour notre recherche, oui.
Ouais, parce que nous, d'avoir les chaînes de musique qui ont énormément d'abonnés et qui du coup venaient casser les tops. Et après, si je devais faire un traitement et tout ça, c'était compliqué. Ouais. Donc j'ai trouvé un autre site qui s'appelle Channel Crawler, qui fait la même chose, en gros. Et lui, par contre, il te permet de faire des recherches avancées. Donc là, let's go, j'ai repris à peu près le même bout de code. Bon, voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, j'avais juste à générer la page avec le top. Et ensuite, une fois que j'avais ça, j'avais fait mon petit script d'une quinzaine de lignes. Et puis, let's go. Faut savoir qu'à votre avis, ça coûte combien si tu veux que le site, plutôt que d'avoir à le scraper, il te génère un CSV avec toutes les infos. Parce que là, quand tu fais une recherche, tu peux cliquer exporter en CSV. Il te dit, OK, si tu payes cette somme-là, je te sors le CSV.
Sur toutes les chaînes françaises, du coup.
Non, si je te dis l'équivalent d'un top 150, pour une catégorie. Par exemple, je vais avoir le top 150 des chaînes de tech en France. Combien ils te le font payer, Channel Crawler ?
Je sais pas, 10 balles ?
50 ?
On est plus proche des 50.
Que mais
des
non.
Ils te le font payer en fonction de ta requête entre 40 et 70 balles, le CSV.
Ah ouais.
Le CSV. Je crois que c'était l'abonnement.
Non, le CSV. Et il y a un petit truc exporté en haut à droite, exporté en CSV, et ils te mettent une facture, c'est en dollars. Donc c'est plutôt. Bon, après, l'euro s'est effondré, donc maintenant on y est. Mais en gros, quand j'ai vu le truc, la première facture qu'ils m'ont mis, c'est 70 dollars. Au début, j'ai vu le truc téléchargé, je me suis dit, bon, allez, c'est gratuit. Enfin, c'est fou, et je clique et.
Ok.
J'aurais pu te demander de lâcher la CB, mais je me suis dit, c'est pas dans mon éthique de travail.
Oh, c'est beau, ça.
Ça,
ça fait des économies. Et c'est comme ça qu'on a un beau plateau.
C'est tout ce qui n'est pas. On les entend rire à la régie. Mais tout ce qui n'est pas dépensé, justement, en données, est dépensé en caméra.
Dans le fond vert.
Voilà, exactement. Dans le fond vert. C'est pour ça qu'on a des plantes vertes. Parce que l'argent est passé là. Du coup, je récupère ces données-là. Donc, je récupère les chaînes et je monte. En gros, je récupère l'équivalent de 6 top 100 dans 6 catégories différentes.
D'accord.
Ça va de humour, entertainment, sport, etc.
Donc, en fait,
j'ai pas vraiment. Au final, ça me fait un top 900 parce que dans mon scrapping, des fois j'en ai 100, des fois j'en ai un peu
d'accord,
plus. Donc, j'ai les 900 plus grandes chaînes avec certaines catégories filtrées, en gros.
D'accord.
C'est mon premier point de départ, mon corpus, je connais.
Et t'en fais quoi de ces chaînes YouTube ?
Bah, et de ces chaînes YouTube, ensuite, ça devient mon point d'entrée pour aller récupérer les vidéos. Parce que moi, à la base, je voulais aller récupérer les vidéos du top. Mais je pensais pas déjà que la partie récupérer le top allait être
aussi compliqué.
Ouais, c'est compliqué. Enfin, ouais. C'est que ça. Surtout que ça a pris du temps, en fait. Donc maintenant, j'ai mes 1000 chaînes YouTube. Bah, je me dis, il faut que je récupère les vidéos. Et là, j'ai pas fait dans la dentelle. C'est-à-dire que j'ai récupéré toutes les vidéos de ces chaînes depuis leur création. Donc, c'est-à-dire que pour Squeezie, j'ai aussi récupéré ces vidéos de
2007.
Ouais, même avant. Il y en a certains, j'ai des vidéos de 2014, tu vois. Et donc, j'ai tout récupéré. Si je vous dis le top 900 YouTube, combien de vidéos ils ont sorties depuis leur création de chaîne? En gros, 900 YouTubeurs, ça représente combien de vidéos si on prend le top 100 FR, le top 1000 FR du coup?
Mais ça dépend quand est-ce qu'ils ont commencé et tout.
Bah, ouais, y en a
à la louche.
Tard,
à la louche, moi je vais dire.
Attends, m'influence pas. 10 000
non, vidéos. Non, c'est pas assez du tout. Attends.
10 000 vidéos, ça veut dire qu'ils en ont tous posté 10.
Moi je veux dire 90 000.
Ouais, mais il y en a qui n'en ont pas. Ah, bah non, c'est les seuls top. C'est les top.
Je veux dire 90 000.
90 000, donc ça fait 100. Oui, c'est ça, 100.
100 par chaîne.
100 par chaîne.
Facteur 10 en plus. Bah ouais, non, mais voilà, mais je suis influencé du coup maintenant, tu vois, du coup je peux plus.
Vas-y.
J'ai récupéré la bagatelle de 780 000 vidéos.
What?
780 000 vidéos. Donc. j'y suis. En fait.
Vous êtes prolifique,
hein. En fait, il faut savoir que justement, je vous ai dit, c'est un peu mon métier, et il se trouvait que j'avais un outil à tester, et que je voulais un peu stress test mes outils d'extraction. Donc je me suis dit, vas-y, tu lances sur tout, tu récupères tout. Et puis après, on discute. Je me suis dit, si ça bloque ou quoi, on discute.
Donc, tu t'attendais à peut-être que ça plante au bout d'un certain temps, mais non.
En fait, s'il me bloquait au bout d'un moment, j'aurais dit, je prends toutes les vidéos de ces chaînes-là et on remonte jusqu'à 2018, 2019, en fonction de quand il m'aurait...
Ou alors, on fait l'extraction sur une semaine, le temps de lui laisser respirer un peu.
C'est ça, où j'aurais mis des time-out ou quoi. Et non, j'ai tout récupéré. donc là, j'ai mis 750 000 vidéos YouTube. C'est 1,5 giga de données, parce que c'est dans un tableur, tu vois, dans un data frame. Donc j'ai 1,5 giga de données, 750 000, enfin c'est entre 740 000 et 780 000, parce que je l'ai refait plusieurs fois.
Ouais.
Et donc là, voilà, je récupère toutes les infos. Il faut savoir qu'en plus, l'extraction des 750 000 vidéos, je l'ai faite deux fois. Donc techniquement, j'ai envoyé 1,5 million de requêtes à l'API. Parce que, en fait, avec un endpoint, j'ai les vidéos, avec l'autre endpoint, j'ai les stats.
Et alors,
comme je voulais les deux,
t'as payé combien? Zéro.
On fait de la magie noire. Dans ma boîte, on fait de la magie noire. On a développé des techniques de sorcier suprême. Et donc du coup,
alors pour que les gens se rendent compte vraiment, payer les API à ces échelles-là, ça peut coûter des fortunes. Ouais. Et l'API YouTube est connue pour être dans les plus chères.
Alors,
c'est quand même un petit
ça a été parmi les premières API des GAFAM en fait à comprendre que plutôt que de bloquer l'accès aux données, ils pouvaient les monétiser. Et donc en fait acheter des tokens API sur YouTube, tu le fais en 2-2, quoi. Quand t'es dev, c'est pas obscur ou quoi. C'est même fait pour, tu vois. Ils te donnent un certain taux de tokens, et puis ensuite, ils te disent, t'as dépassé. Ne t'inquiète pas, on veut bien te les donner, mais il faut allonger.
Et merci pour les économies.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est vrai que je devrais faire une simulation de si j'avais pas utilisé
mon sortilège,
tu vois.
C'est quoi le sortilège, on veut savoir?
Le sortilège, malheureusement, il est labellisé First Link, mon agence. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre un rendez-vous.
Le lien, un lead magnet. Directement.
En fait, ce live est sponsorisé par et donc voilà, j'ai mes 750 000 vidéos. Et maintenant, en fait, ok, on a la donnée, mais.
Qu'est-ce qu'on en fait?
On en fait quoi?
Bah oui.
On en fait quoi? T'as ton tableur. Là, ça va, ça s'ouvre encore dans Excel. Faut savoir que la limite d'Excel, elle est à 800 000 lignes environ. Donc lui, il rentre encore. Souvent, mes dataframes ne rentrent plus. Mais lui, ça va. Comment il était fait, il rentre encore dans Excel. Mais après, je ne l'ai jamais ouvert dans Excel, mais c'est à 800 000 lignes.
Donc, on veut des informations sur les sponsors qu'il y a sur ces vidéos.
C'est ça. Et en fait, du coup, là, tu te dis, dans une vidéo, où est-ce qu'il y a de l'info? Où est-ce que je peux choper ce genre d'info dans la vidéo? Il aurait pu avoir différentes méthodes avec le scrapping, aller chercher des trucs visuels dans les fenêtres. Moi, en fait, on en avait discuté, on s'était dit, cette info-là, on pourrait la choper directement dans les descriptions. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, avant, on avait pensé à passer par une petite extension qui s'appelle Sponsor Block, qui est en fait une extension qui te permet de faire comme un ad block, mais qui te passe tes sponsors dans les vidéos.
C'est ça.
C'est un truc communautaire et ils mettent leurs données, ils partagent leurs données.
Et alors, c'est moi qui t'avais parlé de ce truc-là. Et effectivement, de notre connaissance, si jamais il y avait un endroit où il fallait trouver un dataset qui correspond à trouver l'ensemble des sponsors de YouTube, ce qui est quand même une info bizarre, eh bien, mon meilleur pari, c'était Sponsor Block qui te fournissait vraiment, comme tu dis, un fichier de base de données avec un maximum de vidéos et de timecode où tu avais vraiment début, fin
carrément.
Du sponsor. Type de sponsor, est-ce que c'est quelqu'un qui fait son auto-promo? Est-ce que c'est un sponsor partenaire?
Si c'est une musique, l'intro, outro, etc.
Exactement. Et donc, ça n'a pas été utile, ça.
En fait, la base de données en soi est vraiment bien. Ouais. Et t'as même, en fait, comme c'est communautaire, t'as même des systèmes de vote où tu peux voir, du coup, si un segment, il a été plébiscité par la commu ou pas. Le problème, c'est qu'il était trop restrictif parce que sur les 700 000 vidéos et quelques, bah, il m'en restait même pas 7 000 au final de filtrer. Et donc, directement, je me suis dit, c'est déjà pas mal, mais une sponso sur 100, c'était trop. Et en fait, après, j'ai pu croiser des sources et tout ça, regarder un peu ce qui s'était fait. Et je me suis rendu compte qu'on était quasiment du simple au double, tu vois, par rapport à ce qu'il y avait au niveau de sponso.
Okay.
Et alors, en fait, dans un monde idéal, Sponsor Block aurait eu toutes les infos et on aurait pu, du coup, différencier sponso, affiliation, etc., etc. Parce que c'est très précis sur Sponsor Block. Ouais. T'as vraiment tout. Et t'as même les time codes, on a pu compter quelle durée moyenne dure une sponso et tout, mais...
Mais c'était trop restrictif.
C'était trop restrictif et je me suis dit, le problème c'est que, génial, t'as récupéré 750 000 vidéos, il y en a 5 000 pertinentes, tu sais qu'il te manque la moitié.
Ouais. Mmh.
Tu sais pas en plus, la moitié qui te manque, il y a sûrement un facteur discriminant. C'est-à-dire que c'est pas le dataset au hasard qui en a perdu la moitié. C'est forcément, par exemple, des créateurs qui passent à la trappe, ou une période, ou un certain type de vidéo. Et donc en fait, quand tu fais ça...
Tu pourris un peu ton enquête.
Tu pourris ton échantillon parce que, du coup, mes tops, où j'ai récupéré des tops assez, tu vois, assez égaux les uns par rapport aux autres, bah là, tu sais pas, ça se trouve, bah, la catégorie tech, les gens utilisent beaucoup ce truc-là et donc t'auras beaucoup de vidéos de tech. Et au contraire, dans le gaming, par exemple, elles y seront pas.
Je dis, bah, c'est probable. Non, mais c'est probable ce que tu dis. C'est que les gens un peu techos utilisent plus ce genre d'extension et donc ça vient.
Ou que le lifestyle et tout ça. Okay. Et donc, en fait, le problème, c'est que. C'est trop orienté. En fait, tu peux accepter d'avoir moins de précision si tu sais que c'est à peu près homogène. Tu vois.
Ouais,
c'est comme quand tu fais un sondage, tu acceptes de ne pas avoir l'entièreté de la population parce que tu fais un truc représentatif.
Okay.
Donc, ça, on met de côté. Maintenant que j'ai ça, je me dis, bon, on va vraiment faire de la full description, mais on met un peu de côté l'idée qu'on va pouvoir viser que les sponsors. En fait, je me suis dit, on va regarder tous les liens de toutes les descriptions qui sont contenues dans les descriptions, de quoi ça parle.
Ouais.
Et en fait, en faisant ça, je me dis, bon, bah, il y aura des liens YouTube, il y aura des liens Twitch, il y aura des liens Spotify, etc. Mais il y aura aussi des liens d'autres de marques. Et donc, comme ça, eux, je les identifie et c'est sur eux que je bosse ensuite.
Okay.
Donc, j'ai plutôt travaillé comme ça.
Donc, en gros, tu as fait, si j'ai bien compris, tu as scrappé toutes les descriptions de ces vidéos-là.
Ouais.
Et dedans, tu as regardé, tu as extrait tous les liens HTTP.
Tous les liens, ouais.
Et j'imagine qu'avec ça, tu as dû en voir certains qui revenaient plus, parce que les gens en description vont mettre leur lien de leur Twitter, de leur Twitch ou des trucs comme ça. Donc, cela, tu peux faire une blocklist, par exemple, en fait, et dire je veux pas les voir. Quoi.
Par exemple, en fait, si tu as vraiment une dizaine de liens qui étaient énormément devant les autres, parce que c'était Snapchat, Facebook, Twitter, etc. Et donc, cela, tu peux les nettoyer très facilement.
Okay.
Et puis, je le faisais à la main, tu vois. Genre, j'ai nettoyé ça à la main. Et donc, c'était.
Et qu'est-ce qui reste alors?
Mais en fait, ce qui reste ensuite, il y a quand même beaucoup de travail. Il y a un truc qui est très compliqué, auquel je n'avais pas pensé, c'est les bit.ly et les liens courts.
Ouais.
Parce que, en fait, j'ai récupéré tous les liens. Et j'ai des outils qui sont très puissants pour récupérer les liens dans les descriptions.
Ouais.
Donc, ça n'a pas de souci récupérer tous les liens. Pour convertir un lien en son nom de domaine, tu vois, parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir une marque slash Squeezie, une marque slash Cyprien. Donc, récupérer juste le nom de domaine sans fetch le lien, ça va. Mais quand c'est des liens qui sont
raccourcis,
là, il y a un souci. Parce que du coup, je perds potentiellement aussi beaucoup d'infos.
C'est-à-dire que nous, ça se trouve, ton programme allait nous sortir. Alors, le plus gros sponsor de YouTube, c'est Bitly.
En fait, c'était plus ou moins ça. Et donc là, ça a été la phase la plus longue. C'est que j'ai dû résoudre tous les liens. En fait, j'avais un détecteur de liens raccourcis.
D'accord.
Et ce détecteur-là m'a mis dans une liste tous les liens raccourcis.
Allez,
et ensuite, j'ai dû lancer 90 000 résolutions de liens. Et c'était très long, parce qu'en fait, il y a beaucoup de ces trucs-là qui sont périmés. Donc en fait, t'as quand même accès aux liens qu'il était censé renvoyer, mais du coup, ils sont lents, en fait. Ou, ils doivent être, je sais pas du tout comment ça marche, mais je sais pas, alors ça se trouve, j'ai des bêtises là-dessus, mais peut-être qu'ils sont indexés ou un truc dans le genre, mais ces liens-là, souvent, ils étaient très lents. Mais j'arrivais quand même à retrouver là où ils étaient tombés avec l'outil que j'avais fait. Et donc ça a pris un temps, mais fou. J'ai partagé un moment sur Twitter, j'ai une petite barre de chargement sur mes scripts et ça m'était, c'est fini dans 479 heures. C'était hier.
C'est vraiment le temps que ça a pris, du coup
Non, du coup, j'ai dû ruser, mais j'ai vraiment la barre de chargement qui dit « Bravo, tu as fait 0%, il te reste 479 heures ». Et c'était ce moment où vous avez annoncé la chronique. Et donc, du coup, j'aurais dit, ouais, vous inquiétez pas, tout se passe bien.
Nickel,
on est cool. Mais donc, j'ai un peu bidouillé, j'ai mis des systèmes un peu en fait comme un cache qui permet de détecter les URL et de pas forcément refetch ceux qui ont déjà été faits et où tu peux détecter dedans vers où ils vont mener.
D'accord. Donc, pareil, j'ai compris.
On a dû ruser un petit peu, etc.
Donc, de là, tu passes à tes domaines plus ou moins filtrés à ton truc final où tu as tous les vrais domaines qui ne sont pas des réseaux sociaux.
J'ai une liste de noms de domaines pour chacune des vidéos. Par exemple, je vois une vidéo, je reprends l'exemple de Squeezie parce que souvent c'est lui sur lequel je faisais des tests parce que c'est le premier qui est revenu avant. Et par exemple, j'avais Squeezie sa vidéo, puis j'avais une case où c'était marqué Facebook, Twitter, Twitch, Yoko, sa marque de vêtements. Et puis il y avait par exemple après un sponsor, tu vois, et puis j'avais ça. Il fallait que je nettoie les premiers et puis que je récupère ce qu'il y avait ensuite.
Okay.
Bon. Aussi, pour vous donner un peu des insights, il faut savoir qu'au moment où ça est arrivé, je me disais que ça, c'est une bonne idée de pimper un petit peu ma bécane, d'avoir un peu plus de puissance, de calcul. Donc, je me suis acheté de la RAM qui est arrivée corrompue. Donc, j'ai eu des écrans bleus pendant une semaine.
Oh non.
Donc, ça aussi, il faut savoir que ça a été un moment aussi très compliqué de... Bon, allez, je me rajoute de la RAM, comme ça, je vais pouvoir aller plus vite, je vais pouvoir faire plus de multithreading et tout ça, et plus de puissance.
Parce que tu fais tout en local, du coup ?
Oui, en fait, je fais ça en local parce que... En gros, c'est des scripts que je développe à la volée et qui ensuite je les lance sur ma machine et j'ai pas d'environnement virtuel dans lequel je mets. J'utilise des environnements virtuels quand je fais mes cartographies Twitch parce que là j'ai une limite de matériel très concrète il te faut 64 Go de RAM. Donc, mais là en fait c'est des trucs que je peux mettre sur ma tour. C'est pas si gourmand que ça.
Ok, j'aurais cru que...
Okay. Non, c'est pas si gourmand que ça. En fait, c'est gourmand plus en complexité de l'algorithme. Ouais. En gros, il vaut mieux que ce soit bien codé. Mais sinon, après, fais des URL
à la chaîne. Ouais.
Ça, tu les fais à la chaîne, puis tu peux pas. En fait, je pouvais pas trop en plus en lancer trop simultanément parce qu'au final, c'était pas non plus. Vu que j'avais mon système de cache, si j'avais une machine super puissante et que je lançais tout d'un coup, je perdais cet effet-là et donc c'était quand même plus rapide de restreindre les trucs.
Donc t'achètes de la RAM, tu la mets, écran bleu.
Écran bleu, puis j'en ai eu des différents. J'ai eu un moment où ma carte mère bipait pour me dire que ma carte graphique avait grillé. Mais en fait, et du coup, j'ai appris en panique. J'étais tout seul dans mon appart en train de tourner à force de vouloir mettre la RAM, de brancher, débrancher mon ordi parce que ça marchait pas. Mais en fait, il y a un moment, l'ordi est juste reparti et ça faisait bip, bip, bip. Et du coup, je tape dans Google.
Qu'est-ce que ça veut dire? Bip.
Un bip long, deux bip courts. Je tape ça dans Google et tu sais, t'as les trucs, tu sais, de débug là et les gens, tu sais, où t'as ces espèces de forums et il y a un mec qui dit, quand c'est un long, deux courts, c'est que la carte graphique est grillée. Et le truc a genre 1000 pouces vers le haut. Et là, je suis
merde.
Ok, je viens de griller ma carte graphique. J'étais dégoûté, j'ai cru que j'allais pleurer.
Qui est potentiellement le composant le plus cher de cette tour.
Définitivement, ma tour est pas exceptionnelle, mais il y a une RTX 70 dedans. Ça fait un budget. Tu vois.
Ça fait chier. Oh là là.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà, telle une fusée.
Et en fait, j'ai appris, c'est tout. En fait, c'est jamais des échecs, c'est toujours des moyens d'apprendre.
Exactement.
Faut voir ça de
faut
à
le
moitié.
Voir ça comme ça. Ouais.
C'est ça. Et en fait, j'ai appris que si ton ordi avait des problèmes de RAM, ça, en gros, la carte graphique se boot pas. Et donc, plutôt que de dire il y a des problèmes de RAM, il dit il y a des problèmes de carte graphique.
Pratique.
Donc,
alors, si votre carte graphique est cassée, sachez que c'est peut-être la RAM.
Faites attention d'abord à la RAM. Après, moi, j'avais des gros indices qui pointaient vers là, mais parce qu'en plus, leur truc, c'était vérifier ça, débranchez votre carte graphique et tentez-la sur un autre PC. Oui, évidemment, j'ai 4 PC à la maison, je vais venir tester
le
ça.
Le coup du bip, 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 tapé dans Google.
Ouais, le coup, c'est un bip long, deux bip quoi. Et en fait, j'ai commencé à le taper en sachant pas comment j'allais le formuler. Et j'ai vu que c'était un truc que je cherchais.
Parce qu'il y a d'autres jours qu'on cherchait la même chose que toi.
Puis il y en a, ils avaient 3 bips longs, un bip court. Eux, c'était un autre composant qui avait donné ça. Donc, j'ai passé une soirée dans mon BIOS. Et puis, s'il y en a qui sont là, merci aux gens qui me suivent sur Twitch. Parce que je lance. En fait, le seul moyen que j'avais de voir si ma RAM fonctionnait, c'était de lancer un stream. Parce que c'était suffisamment gourmand pour justement pousser la RAM et que ça plante. Et donc, je disais sur mon Discord, je vais lancer un stream. Ça va planter, mais on va voir à quel moment ça plante et comment. Et du coup, ils étaient là en mode, oui, on t'entend, non, on t'entend pas. C'était vraiment un live de guignol, tu vois. Oui, on t'entend. Puis d'un coup, je leur dis, attention, je vais cliquer sur un truc, on va... Fini. Fini. Donc, okay. Ça a été une soirée très compliquée.
Bon, plus de peur que de mal. Donc, ta tour fonctionne.
Je suis revenu sur ma config de départ.
T'es revenu.
C'est vraiment du temps perdu pour rien parce qu'au final, je suis revenu à ma config de départ.
Et t'es revenu à ton enquête.
Et donc, je reviens à mon enquête. Je relance tout ça. Et donc, là, j'ai ma liste des domaines. Et donc, vous savez, j'ai dégainé mon outil favori. J'ai fait une petite carto avec Jeffy parce qu'en fait, je me suis dit, la première chose que je voulais voir, c'est est-ce qu'il y a des marques qui sont plus reliées aux autres, plus reliées les unes avec les autres.
Est-ce qu'on peut la voir?
Alors, normalement, vous avez même une vidéo de. Alors, ça, c'est à quoi elle ressemble au final, mais vous avez même normalement une petite vidéo, je sais pas si Gabin pourra la choper, où on voit quand elle est en train de se faire spatialiser. Parce que j'ai trouvé ça. Assez sympa, je sais pas, j'étais dans un mood où je me suis dit, oh tiens, c'est joli. Donc je vous ai fait une petite capture, je sais pas.
Donc c'est, voilà. Ah oui, oh, trop joli.
Ça, c'est ce que j'avais sous les yeux, du coup.
Mais attends, qu'est-ce qu'on regarde, là, du coup?
C'est la naissance de l'univers.
Là, c'est... Alors, c'est déjà un peu nettoyé, mais c'est tous les liens dans les descriptions du YouTube français. Et du top 900 du YouTube français. Et donc, ça te sort un truc. Bon, là, tu vois même, du coup, le résultat que j'avais au départ, tu vois, ça me sort un truc comme ça.
Ok, c'est tous les liens, mais du coup, les liens... Enfin, là, donc, les points, c'est des liens?
Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle une cartographie bipartite. C'est-à-dire qu'il y a deux types de données dedans. Il y a à la fois les streamers, il y a à la fois les chaînes. Donc, tu as un point Squeezie, un point je sais pas, Joyka, un point Mixem. Et tu as aussi des points pour les marques. Et ensuite, ils sont reliés entre eux quand, bah, par exemple, Squeezie a fait une OP avec RhinoShield. Boum, un lien vers RhinoShield. Il a fait une OP avec NordVPN. Boum, un lien avec NordVPN, etc., etc.
Hyper stylé. Alors, si on voit le résultat final, donc tout ce travail après un peu de clean-up et tout, j'imagine.
Mais en fait, la cartographie n'a pas été la finalité ici. D'accord. Elle m'a aidé à passer à l'étape suivante.
D'accord.
Parce qu'en fait, la cartographie, souvent, moi ici, je suis souvent venu la présenter comme étant l'outil final parce qu'elle peut servir. Mais en fait, la cartographie sert beaucoup à faire de l'analyse exploratoire. De dire, j'ai quoi comme données sous les yeux, comment je comprends.
Et donc en fait, là, est-ce qu'il y a des trucs. Déjà, tu as remarqué des trucs marrants sur cette carte-là?
Ouais, bah, les premiers trucs qu'on voit, en fait, c'est que. D'un point de vue très bête, c'est que ça m'a permis de voir quels sont les liens qui ressortent le plus et un peu comment c'est structuré.
Tu vois, quels sont les plus gros sponsors de la plateforme?
Alors on voit certains sponsors. On voit déjà tout à gauche en bleu et un peu en rose. On a Utip, Tipeee et tous les trucs de tipping. T'avais une question?
Ouais, j'allais demander les couleurs du coup. Alors, ça représente des clusters de.
Ouais, c'est un cluster. En gros, je lance un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Louvain, qui est juste à partir des données de la carte, fait en sorte de maximiser. Les points pour que s'ils soient de la même couleur, ils ont un maximum de liens entre eux et un minimum de liens avec les autres couleurs.
D'accord, donc c'est une espèce de cluster logique.
C'est des clusters, tout simplement ça.
Okay. Alors, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, là, on est face à une synthèse des liens en description, ce qui veut dire qu'on va voir plein de sponsors, et il y a aussi plein d'autres choses.
Oui, il y a du Tipeee, il y a du Utip, j'ai nettoyé les réseaux sociaux.
Il y a Rockstar Games, à mon avis. C'est pas des sponsors Rockstar, ça doit être des gens qui partagent leurs liens de jeu.
Ouais, ou des serveurs.
J'ai vu GitHub aussi.
Ouais, il y a GitHub qui est en plein centre.
C'est hyper marrant.
GitHub, GitLab au-dessus.
Ouais, c'est pas mal du coup. Enfin, ça veut dire que du coup, les gens partagent leur
code.
Repo. Ouais.
T'as plein de trucs. Si tu dézoomes je crois que c'est tout à gauche. Alors là, le problème, c'est que j'ai pas fait les liens assez forts, mais tout à gauche, vas-y. Tu vois, c'est un peu rose là. Ça, c'est les citations. Tout à gauche, là, c'est les citations. Donc là, tu as du Google, mais si tu vas encore plus à gauche, tu as New York Times, BBC, Wikipédia.
En
fait, tu as tous les gens qui citent leurs sources. Toi, tu as du gouvernement. Vas-y, si tu peux dézoomer, Gabin, et monter un petit
tous
peu.
Les liens. On dirait.
Mais là,
galaxie.
Tu vois, tous les petits points que tu vois, ils sont tout petits parce que souvent, ils sont utilisés qu'une fois.
Ah oui.
Mais parce que c'est, tiens, ils ont cité un truc du gouvernement, un Wikipédia, un. Là, on voit par exemple, voilà, Wikipédia, il est là, tu vois. Et ça, c'est la partie citation de source.
C'est marrant.
Et elle est un peu à part du reste. Parce qu'en fait, tous les youtubeurs ne citent pas leurs sources parce que.
Mais il y a très peu de youtubeurs qui doivent citer beaucoup de sources parce que.
C'est ça, parce qu'en fait, c'est ceux qui font de la vulga qui citent des sources. Les autres,
c'est
ils ont.
Hyper marrant.
Donc voilà, ça, j'ai ça et ça me permet.
On voit NordVPN.
Bah, vas-y, tu peux aller en plein centre. Le plein centre, c'est ce qui est utilisé par tout le monde, en gros. En fait, ce que la cartographie m'a permis de me rendre compte, moi, au début, je l'avais imaginé en me disant, je vais voir des clusters de. Par exemple, on va voir les trucs de VPN ensemble.
Ouais.
Puis un peu plus loin, on va voir le gaming. Et un peu plus loin, on va voir les autres trucs. Mais en fait, non, c'est tout mélangé.
D'accord.
En fait, tout est mélangé. Et vas-y, tu vas en plein centre à côté du type.
Telle industrie ne cible pas nécessairement tel youtubeur.
On va le voir après, mais non, d'accord. En fait, pas vraiment. C'est le premier truc. Alors ça a été le premier. En fait, c'était la première idée que je m'étais dit, on va peut-être pouvoir voir vraiment des clusters de gens qui ont la même strat.
Ouais.
Et en fait, non.
D'accord.
Je vois pas NordVPN.
Alors NordVPN, où est-ce qu'il est normalement, il y était. Je l'avais vu. Il est au centre normalement, mais je saurais pas le. Le retrouver ici. OneFootball, ils font beaucoup de sponsors aussi.
Allo Paradise.
Ouais. Faudrait chercher. Ils y sont quelque part. Il y a même toutes celles que vous connaissez. Ils sont souvent dans un petit cluster ensemble, mais je saurais plus te dire là. Et puis je vais pas te faire chercher à Gabin.
Kersus. Oui, tu vois quand même un petit cluster
peut-être
par exemple.
Peut-être au-dessus.
Regarde, Kersus, Elgato. Ouais. Il y a un petit.
Même là, Kinguin, qui est un truc de jeu, qui est avec la Fnac un peu. Puis t'as Level Down et Instant Gaming. G2A, qui sont les reventes de clés.
Oui.
Tu sais, les clés de jeu.
C'est vrai. Et tu les vois à côté de Play Happy Club. Il y a quand même, tu vois des certaines logiques.
Il y a quand même une logique. Zerator.com, qui est à côté d'Eclipsia. Donc, pour voir à quel point c'est vieux. Eclipsia, c'est là où streamait Zerator à ses débuts.
C'est trop drôle.
Parce que c'est YouTube depuis. Je veux dire, là, j'ai récupéré Zerator. J'étais impressionné. Je crois qu'il a 7000 vidéos sur sa chaîne YouTube. Et donc, ça remonte.
Et donc, toi, t'es remonté jusqu'au début de sa chaîne.
J'ai sa première vidéo. C'est-à-dire que là, ici, il y a potentiellement des marques qui ressortent qui n'ont pas fait d'OP depuis 2 ans.
Ils ont dû faire des OP Brave.com. Où il doit y avoir un.
Où ça?
Oui, alors ils ont un lien d'affiliation. Juste à côté de Zerator, t'as Brave.com, donc c'est un navigateur.
Ouais, ouais, bah Brave, Zerator a dû faire beaucoup de Brave.
Et soit c'est des OP, soit c'est un lien de,
ouais,
d'affiliation. Lien d'affiliation de...
Ouais, exactement.
C'est trop marrant.
Et donc voilà, voilà, t'as plein de choses. T'as Reddit, évidemment.
Il y a un gros Minecraft en haut, c'est marrant quand même.
Ouais, c'est sûrement pour les serveurs.
Ouais, les serveurs.
C'est
ouais.
quand ils se
ah
partagent.
Ah oui, effectivement, ouais. Et jeux vidéo.
T'as Steam aussi. Bah, quand quand ils faisaient des jeux indés, souvent ils partageaient le lien du jeu si tu voulais jouer aussi.
Donc la taille des bulles, pour expliquer, c'est en fonction du nombre de liens qu'ils ont. Donc plus la bulle est grosse, plus ils ont fait de sponsors en gros.
Ouais, c'est ça. Là, ce que j'ai utilisé, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on appelle le degré entrant. Donc en gros, c'est plus le point est gros et plus il a été cité par des personnes différentes.
Ah oui.
En fait.
Donc, et cité en description, je ne l'ai pas précisé. Parfois, c'est du sponsor, parfois, c'est autre chose.
Oui, ça peut être plein de choses. J'ai choisi ça. J'ai utilisé une échelle logarithmique pour lisser. C'est pour ça qu'on a beaucoup de points. Gros, parce que sinon on aurait deux qui seraient énormes et puis tous les autres sont illisibles.
Donc
j'ai lissé ça avec un logarithme.
Ok. Donc une fois que tu as fait cette cartographie, qu'est-ce que tu fais ensuite?
Une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, le truc le plus ambitieux, ça aurait été d'attaquer le dataset de front et de lui faire ressortir des insights. Là, je me suis dit, je vais plutôt partir de mon analyse exploratoire pour dire, ok, quelles vont être les marques qui vont m'intéresser, quels vont être les liens qui vont m'intéresser, et je vais plutôt aller voir par marque. Comment ça ressort, parce que dans la cartographie au final ici il n'y avait pas de gros insights qui ressortaient, donc je me suis dit je vais cibler, et donc évidemment il y a des marques qui sont ressorties. À votre avis, quelles marques ressortent? On en a parlé déjà. C'est quoi les marques qui bombardent le web, bombardent YouTube de pubs?
Une NordVPN.
Rhinoshield, exactement.
Qui d'autre? Xplate.
Bon, tu t'as fait mon top 3.
Allez.
Alors, c'est pas le top 3 des plus utilisés, mais c'est le top 3 sur lequel j'ai décidé de focus parce qu'ils ont des caractéristiques différentes.
Red Shadow Legends, on dit dans le chat.
Ouais,
aussi.
Alors, Red Shadow Legends et tout ce qui est application, je l'ai pas pris en compte pour une raison très simple, c'est que, en fait, ils mettent les liens des Play Store, des App Store. Et donc, en fait, c'était trop galère.
C'est un peu chiant à filtrer.
C'était beaucoup trop galère parce que, du coup, il y avait un énorme point Apple. Il était gigantesque. Mais ça pouvait aller de l'application perso à Red Shadow Legends, à d'autres trucs, les sites de rencontres, etc. Donc, tout ce qui est application a été viré.
Peut-être qu'on pourra revenir sur
bah, si vous voulez,
les applis en particulier.
Si vous voulez, si vous avez un besoin particulier...
Ouais, techniquement, c'est faisable.
Faisable. En fait, on a les données. Maintenant, il faut du temps de traitement.
Exactement.
Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire à la main. Ça, aussi, la data ne se fait pas tout automatiquement. Il y a des trucs qu'il faut voir à la main. Donc voilà. Et là, ensuite, du coup, j'ai filtré mon data frame à chaque fois pour ne garder que ceux qui contenaient un lien en particulier. Donc en fait, par exemple, j'ai fait un zoom sur NordVPN et j'ai regardé toutes les vidéos qui contenaient le lien NordVPN. Donc du coup, il y a à la fois de l'affiliation et il y a à la fois de la sponso.
Okay.
Et par exemple, en fait, j'ai regardé quelles sont les catégories de stream, catégories de vidéos qui sont les plus utilisées par NordVPN, où il a fait le plus de choses. Donc là, par exemple, c'est en termes de quantité, NordVPN, ils font beaucoup de vidéos avec des gens qui sont dans la catégorie sciences et technologies.
D'accord.
Puis comédie, puis entertainment, puis sport. Puis, enfin, on voit que c'est très divers, mais que là où il y a le plus
si vous
de
arrivez
vidéos,
à zoomer pour qu'on voit les types de catégories.
Mais alors, j'ai écrit un peu petit dedans, je suis désolé.
Je sais pas
s'il va pouvoir vraiment zoomer parce que c'est de l'HTML interactif. Donc, tu zoomes, il se remet à niveau.
C'est assez équitablement réparti.
Carrément.
Je pensais que ce serait plus grand dans la science et tech.
Pas tant que ça.
Au final, j'avais même pas pensé à la base quand j'ai vu Science et Tech, j'étais surpris. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai que c'est de la tech, la base dans VPN. Mais comme on les voit sur tout, sauf.
C'est ça. Ils ont autant de comédie, de.
Comédie, entertainment, en vrai, c'est les vrais premiers parce que tu peux les fusionner. En fait, c'est deux termes qui veulent un peu dire la même chose. En fait, la vidéo, tu peux dire, est-ce que je fais de la comédie ou de l'entertainment?
La frontière est pas évidente.
Donc on peut.
Très intéressant. Ok. T'as regardé quoi d'autre?
En fait, ensuite, j'ai la même chose, mais en termes de vues. C'est-à-dire que là, ça dépend d'une. J'ai mis une répartition du nombre de stream, enfin de vidéos où j'ai retrouvé le lien. Et là, maintenant, c'est si on met en termes de vues.
Pareil, pas le plus étonnant.
Mais là, on voit que c'est en fait la comédie et l'entertainment, ils font beaucoup plus de vues. Et
sur la plateforme.
Ça vaut presque plus le coût au final. Après,
on ne sait pas combien ils payent.
Combien ils payent. Et aussi, il faut se dire qu'il y a aussi une histoire d'audience qualifiée.
Exactement.
C'est-à-dire que quand tu parles d'un VPN sur une chaîne de tech, tu sais que le public que tu touches a plus de chances d'être intéressé par un VPN.
Ouais, bien sûr.
Tu fais un truc qui n'a rien à voir.
C'est ça.
Mais en fait,
donc là, on a un bon trois quarts divertissement.
Ouais.
Et après, science, gaming en termes de vues. Okay.
C'est ça. Et tu vois que par exemple, là où il y avait beaucoup de vidéos sport et moins de gaming, là, le gaming fait plus de vues au final que sport. Tu vois, en fait, pour les marques, il y a deux strates. Il y a la strate de combien de streams, de chaînes du coup on touche, et de vidéos on touche, mais aussi combien de vues au final on veut faire. Et c'est aussi ça où il faut faire l'équilibre. Et donc, en fait, après, j'ai fait des petits trucs. Par exemple, tu peux voir le classement de ceux qui ont le plus fait de d'OP. Alors, peut-être que tu peux montrer Rhino Shield pour changer, par exemple. Ou c'est plus c'est plus un diagramme en bâton qui montre, par exemple, les YouTubers qui ont NordVPN.
Le plus fait de deal avec Rhino Shield, c'est ça?
Ouais, alors ça, par exemple, ça, c'est le nombre de vidéos qui ont un lien Rhino Shield
au cours du temps.
Ah, c'est trop drôle!
Boum!
C'est incroyable!
Septembre 2021, ils se sont dit, hé les gars!
Et YouTube, ça marche.
On y va.
Ouais. Ça se voit qu'ils testent la strat entre 2017 et 2020, là.
Ils ont monté d'un coup.
Et ouais. Après, ils se sont dit, bon, allez, let's go. On va lancer. T'as la même avec NordVPN, normalement, Gabin. T'as la même timeline. On va rester sur les timelines, puis après, on reviendra sur les autres. Mais tu vois, NordVPN, eux, ça a été un peu plus progressif, ouais, mais ouais. Tu vois aussi une augmentation au fil du temps.
Et alors, ce qui est intéressant, alors, les gens demandent, les pics, c'est Noël? Et là, t'avais une vue qui était en...
Alors ça, c'est cumulatif. Peut-être que cumulatif, c'est
très lissé, en fait, NordVPN.
Ouais, c'est... En fait, ça va... Tu vois qu'il y a une augmentation, mais l'augmentation, elle est pas... Tu sais, c'est plus progressif. C'est pas Rhino Shield où... Ouais, voilà, là, tu la vois, là. Tu vois, c'est quand même... T'as quand même un pic aussi, à peu près, au même moment. Mais c'est pas...
Donc là, oui, on voit Noël quand même, hein, Noël de 2018.
Et tu vois l'été aussi, des fois, qui a tendance plutôt à retomber, tu vois, genre le mois d'août et tout.
Le mois d'août, il y a moins de gens sur la plateforme, moins de sponsors aussi, les gens sont en vacances. Et ouais, c'est assez fascinant. Et c'est marrant de voir aussi la potentielle retombée. J'ai l'impression qu'on peut aussi corréler certaines de ces courbes avec la période Covid, où tu vois qu'il y a un all-in sur les plateformes web. Et là, que ce soit NordVPN ou Rhino Shield, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu une redescente en mode OK, alors c'est un peu une récession et tout, on se calme quoi.
Alors là, pour le coup, je pense pas. Alors, je sais pas si je leur ai envoyé la DataVis, mais j'ai aussi fait par curiosité un calcul du nombre de vues sur la plateforme. En fait, j'ai agrégé toutes les vues et j'ai fait une timeline ça. Et en fait, on voit que le nombre de vidéos, il y en a de plus en plus au fil du temps. Et qu'en fait, le nombre de vues, il augmente de manière proportionnelle, mais que sur la dernière année, il chute un peu.
Ok.
Et donc, en fait, tu vois qu'il y a YouTube fait moins de vues en moyenne depuis un an que ce qu'il y avait avant. Donc ça aussi, c'est un autre truc que j'ai. En fait, j'avais.
Intéressant.
Imaginez-moi, j'avais.
J'aurais pas cru.
Enfin,
tu veux dire après le Covid ou?
Ouais, grosso modo, à partir de la reprise du Covid, il y a une chute des vues,
d'accord,
alors qu'il y a une hausse du
nombre de créateurs. Ouais.
Et enfin, la hausse, elle est lissée, tu vois. Donc il y a pas de, ça continue à augmenter petit à petit. Il y a de plus en plus de contenu sur YouTube. Enfin, et c'est même pas qu'il y a de plus en plus de contenu, mais c'est que il y a de plus en plus de création de contenu, tu vois. Mais par contre, les vues, elles se sont un peu baissées. Et c'est le cas sur Twitch aussi. J'avais fait une analyse où j'avais vu que dès qu'ils ont tout rouvert avec le Covid, Twitch faisait moins de vues qu'avant et qu'il y avait des baisses.
Bah, c'est normal, okay. Hein,
c'est logique. Les gens reprennent une vie normale.
Ouais, c'est ça, les gens sortent de chez eux.
Est-ce que y a d'autres trucs que tu as découvert dans ton merveilleux dataset?
Ouais, en fait, j'ai vu qu'il y avait aussi des petites strates qui pouvaient être différentes. Par exemple, j'ai vu que, alors, Rhino Shield, vous avez pas vu l'axe des Y sur les timelines qu'il y a avant, mais Rhino Shield, on est à un pic, à un moment, à 350 liens en 2 mois. Ils ont 350 vidéos sur 2 mois où il y a leur lien dedans. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une strat où c'est beaucoup. C'est là où un NordVPN, leur pic, ça doit être, on est apparu dans 70 vidéos sur le même laps de temps.
Okay.
Donc, en fait, Rhino Shield, ils ont une...
très, très agressif.
En fait, c'est strat, beaucoup de... Tu vois, là, ça monte jusqu'à 350 le pic et je crois que c'est sur octobre-décembre. Donc, c'est-à-dire que si tu prends toutes les vidéos du top 900, grosso modo, entre octobre et décembre, t'as 350 vidéos qui ont le lien Rhino Shield dedans. Donc c'est beaucoup, beaucoup. Ouais. Alors que si tu retournes sur NordVPN, c'est pas autant.
Ouais.
Mais maintenant, moi je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines marques, on a l'impression de les voir partout, tout le temps?
Ouais.
Et en fait, c'est plutôt, il y en a certaines, on les voit partout, et d'autres, on les voit tout le temps. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Parce qu'en fait, Rhino Shield, du coup, monte des fois à 350 vidéos, mais en tout, j'ai repéré que 91 chaînes uniques où ils apparaissent.
Donc ça va tant que ça.
Donc en fait, ça va parce que par exemple NordVPN, eux, ils ont collaboré avec 141 streamers. Donc c'est YouTuber. 50 pour YouTuber. Pardon, je vais beaucoup faire l'erreur parce que souvent je travaille sur Twitch. Ouais.
Attends, mais... donc, tu peux répéter. Donc Rhino Shield, ils ont fait combien de partenariats?
Ils ont fait des partenariats avec 91 chaînes différentes
sur
tout le monde DataFrame.
Ouais.
Mais sur leurs 91 partenariats, il y en a beaucoup plus que NordVPN. Alors que NordVPN, eux, ils ont fait avec 141 différents. Mais ils en ont beaucoup moins que Rhino Shield. Donc en fait, Rhino Shield,
Tu te rappelles le nombre de
plus de l'audience qualifiée en fait. RhinoShield, ils vont plus cibler.
En fait, RhinoShield, tu les vois tout le temps. Et NordVPN, tu les vois partout. Ouais, tu vois, voilà, la, tu vois le truc, c'est que RhinoShield, en gros, ils vont
T'avais pris 900 chaînes à l'origine.
900 chaînes, ouais.
900 chaînes du top, donc par catégorie. Ça fait plus de 15% des créateurs qui ont été sponsorisés. Et encore, si, je pense que tu peux enlever un peu de non, par NordVPN.
NordVPN, oui.
Tu peux peut-être dedans enlever plein de chaînes qui sont en réalité pas des vraies chaînes de
oui,
youtubeurs.
Qui sont des
de,
chaînes secondaires, de musique, tout ou des ça, trucs des comme chaînes. Ça.
Donc, en réalité, ça doit être bien plus que ça. C'est
de toute façon, un truc à dire, c'est que de toute façon, pour toutes mes stats que je vous sors là, ça reste des approximations.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est une méthode qui, en fait, cherche à montrer. Enfin, on n'a pas la donnée de base, donc c'est un peu des moyens détournés. Donc, c'est des approximations, mais de manière générale, on a des tendances qui ressortent.
Ouais, j'allais dire, ça montre une tendance
c'est
dans
ça.
Tous les cas.
Ça montre une tendance de voir que RhinoShield ont moins de partenaires, mais par contre, les partenaires qu'ils ont produisent beaucoup de contenu. Ouais. Là où NordVPN a moins de contenu, mais a beaucoup plus, un plus grand portefeuille, il va taper un peu plus à droite à gauche. Et on l'avait vu, je pense que si on montre le camembert de répartition de RhinoShield par rapport aux catégories, justement, c'est aussi un phénomène qu'on va pouvoir voir, tu vois, de répartition de NordVPN. Ils ont beaucoup d'entertainment, beaucoup de... Alors voilà, ça par exemple, ça c'est RhinoShield.
D'accord.
C'est les vues, ça ou c'est... Non, c'est les mentions, c'est bien ça.
Ouais. Et donc, énormément de youtubeurs de gaming bossent avec RhinoShield.
En fait, et ça peut...
Ça, c'est les vues, ok.
Voilà, ça, c'est les vues. Donc, encore une fois, l'entertainment fait plus de vues. Mais si tu peux revenir sur celle d'avant, Gabin. Voilà, sur celle-là. En fait, c'est logique que RhinoShield apparaisse sur beaucoup plus de vidéos parce que souvent, le gaming, il publie plus en fait, de vidéos parce qu'ils vont plus switcher sur les jeux, faire des rediffs, etc. Là où, quand tu fais de la science et de technologie, de l'entertainment, etc., souvent, c'est des rythmes de publication qui sont moins soutenus que sur du gaming, tu vois. Donc, voilà, RhinoShield, ils sont à plus de 50% de gaming, alors évidemment un peu de tech, un peu d'entertainment, etc. Et donc, voilà pour mes petites découvertes.
Est-ce que tu as d'autres petits trucs
Juste pour finir, à votre avis, alors j'ai voulu faire un petit focus sur Squeezie, ça s'est fait naturellement comme c'est le top 1, mais du coup, je voulais juste vous faire la petite devinette, la dernière. À votre avis, c'est quoi le lien de marque qui apparaît le plus souvent dans les descriptions des vidéos de Squeezie, donc techniquement la marque
qui a sponsorisé le plus de vidéos.
C'est où il a eu le plus de partenariats, ou qu'il a mis le plus en avant techniquement.
Oh, alors,
pas en termes de vues, mais en termes de nombre de vidéos.
Je suis curieux d'avoir
Je vous aide, on n'en a pas parlé.
Donc,
c'est pas NordVPN, ni RhinoShield, ni Displate.
Ni Displate. Et dans le chat, vous tentez Yoko, mais ça ne compte pas. C'est vraiment
non, Yoko ne compte pas. C'est parce que sinon, oui, Yoko, même sa BD, etc., ressort beaucoup.
Ouais.
Mais il y en a un qui ressort beaucoup, mais qui est aussi un petit peu. Qui montre aussi un petit peu comment on faisait à l'époque, enfin comment on faisait des descriptions aussi à l'époque. Il y a aussi, c'est une manière de faire des descriptions qui pas qui existe plus, mais qu'on fait peut-être un peu moins.
Ouais, je sèche.
C'est-à-dire que c'était pas forcément des OP.
C'est un truc hybride entre une OP, une affiliation, un partenariat. On va dire, en gros, s'il n'était pas en lien avec eux, il aurait jamais mis leur lien. Mais d'un autre côté,
c'est Steam.
Non, c'est pas Steam. Steam apparaît beaucoup aussi, mais non, j'ai pas.
Je sais qu'ils faisaient beaucoup de vraiment jeux vidéo.
Ouais, c'est pas non plus du Steam. En fait, c'est vraiment une marque. Tu vois, c'est pas non plus une plateforme ou quoi. C'est une marque.
Razer, Logitech.
Ah.
C'est, je l'ai dit.
Du First Try.
Non.
First Try.
Razer.
C'est Razer.
Mais non.
C'est Razer qui apparaît dans énormément de vidéos de Squeezie.
C'est sûr,
Là, tu m'as coupé l'herbe sur le pied, j'avais donné des indices et tout.
C'est incroyable.
C'est Razer parce qu'en fait, aussi, il y a une époque où tu mettais ton setup dans la description. Ah, certains le font encore, mais il a eu beaucoup aussi de partenariats avec Razer. Mais il y avait toujours, si tu veux trouver mon casque, tu vois, c'est, en fait, aussi, il y avait aussi la sponsor en, tu vois, ce qu'on appelle en nature, tu vois, ils lui ont offert des produits, etc. Il dit, tiens, tu veux retrouver mon casque, tu veux retrouver ma souris, tu peux la trouver sur Razer. Et donc,
c'est
la marque que tu retrouves le plus. Si demain, tu veux te faire un marathon Squeezie, où tu regardes toutes ces vidéos, tu lis toutes ces descriptions, t'auras peut-être envie de t'acheter un tapis de souris Razer.
Comme dans les vidéos setup ou les trucs comme ça.
C'est ça.
Trop intéressant. Franchement, merci Nicolas pour cette petite enquête. Tout ce travail de. Enfin, il faut se rendre compte, vraiment agréger cette taille de dataset, 800 000 vidéos à peu près scrappées, c'est quand même incroyable.
En tout, ça t'a pris combien de temps tout ce projet ?
On va dire, je suis sérieusement dessus depuis 15 jours, quoi, grosso modo. Okay. Je pense que c'est à peu près ça. Ça fait un moment qu'on a décidé du sujet. Ça fait cet été.
On
a discuté cet été, mais je me suis vraiment mis dessus depuis deux semaines.
Et ce qui est cool, c'est que maintenant, tu as ce dataset. Donc là, tu en as extrait des informations, mais c'est pas fini. C'est que le début.
Que le début. On va faire des webinaires sur LinkedIn. Je vais faire des PowerPoints. Là, c'est, t'inquiète pas, je vais capitaliser, je vais manger sur cette chronique, t'inquiète pas.
Non, mais franchement, nous, on est curieux de savoir ce que tu vas retrouver
puis
ensuite.
Même si des gens ont des idées, tu vois, parce que, en fait, dedans, je me dis, il y a potentiellement tellement de. En fait, j'ai tous les likes, j'ai toutes les vues, tous les commentaires. Je peux même, alors, pas récupérer les commentaires, je pourrais les récupérer aussi. Tu vois, mais en fait, j'ai tellement d'informations différentes que même si vous avez des idées,
c'est clair.
N'hésitez pas à me les partager parce qu'il y a des fois, il y a quelqu'un qui me dit, tiens, j'ai pensé à ça, et c'est genre l'idée du siècle, je me dis, bah. T'as bien fait de m'en parler parce que comme ça on en discute
c'est
et
clair.
Tout.
Donc toi t'as donné, les gens ont les idées, discuter ensemble.
Travaillons ensemble.
trop cool. Et ben franchement, hâte d'avoir des news de ce petit projet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.